Double opération de gendarmerie au Mont-d'Or, à La Conception et à Saint-Louis. On fait le point dès le début de ce journal. Après l'agression de deux élus à l'île des Pins ce week-end, la province sud s'explique sur la fermeture temporaire des services provinciaux dès la fin de cette semaine. La reprise ce matin des JDC, les journées défense et citoyenneté sont obligatoires pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. En métropole, toujours pas de Premier ministre. Dernier nom évoqué, celui d'un inconnu du grand public, Thierry Baudet, 62 ans, qui préside le CESE national. Et puis en sport, belle moisson de médailles pour la délégation tricolore aux Jeux paralympiques. Elle a décroché cette nuit pour nous 8 médailles, dont 5 en or. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme chaque mardi du magazine Citoyen. Bonjour Gilles Ménage.
Bonjour Jean-François.
Et avec vos invités cette semaine, vous vous intéressez à l'offre post-bac sur le territoire.
Oui, nous ferons le point tout à l'heure sur l'offre post-bac de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et les filières proposées par le vice-rectorat. Samedi prochain, le 7 septembre, donc, l'UNC ouvrira ses portes pour présenter son offre aux futurs bacheliers et nous en parlerons avec le directeur de la communication de l'UNC, Sylvian Raffard-Artigue. Nous sommes également en compagnie de Valérie Poirneur, qui est déléguée académique chargée de l'information et de l'orientation au vice-rectorat. Tout savoir sur les études supérieures, ce sera juste après votre journal.
Une double opération de gendarmerie en cours au Mont-d'Or. Elle concerne La Conception et les abords de la tribu de Saint-Louis. Vous êtes sur place, Nicolas Legrand. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette double opération de gendarmerie?
Oui, tout d'abord, l'opération véritablement d'envergure a lieu à Saint-Louis. Plusieurs centaures et VBRG sont entrés dans la tribu ce matin pour débloquer l'axe après le pont de la Tille au niveau du Verrou Nord, où je me trouve d'ailleurs en ce moment. Il reste en effet des carcasses le long de la route. Les gendarmes ont sécurisé leur progression en utilisant des drones. Et d'après les témoignages que j'ai pu recueillir à l'instant et qui restent donc au conditionnel puisque la gendarmerie ne communique pas pour l'heure sur cette intervention, des habitants auraient alors tiré sur les drones mais aussi sur les centaures de la gendarmerie. Depuis ce matin, les VBRG et les centaures vont et viennent sur la RP1. Le GIGN est aussi déployé en nombre. Il pourrait en effet s'agir de l'opération de libération de l'axe routier qui débute réellement, car selon nos informations, les forces de l'ordre resteront mobilisées plusieurs jours. Et pendant ce temps-là, vous le disiez, une autre opération a lieu non loin de là, à la coulée, du côté de Conception. Les gendarmes ont arrêté plusieurs personnes dans la tribu ce matin. Il pourrait s'agir des individus impliqués dans les heurts survenus dimanche dernier. Je rappelle que deux gendarmes avaient été blessés lors d'une opération de déblayage de la route. Ils avaient essuyé des caillassages et des tirs. Au niveau du Verrou Nord, à la tribu de Saint-Louis, Nicolas Legrand, RRD.
Merci Nicolas. Et nous reviendrons évidemment sur ces informations dans notre journal ce soir à 17h45. Les services provinciaux de l'île des Pins vont fermer pendant 5 jours. La province sud a pris cette décision après que deux de ses élus, Virginie Ruffnac et Laura Vendigou, ait été victime d'agressions physiques samedi dernier. Et le deuxième vice-président de la collectivité, Gilles Brial, s'en explique, Isabelle Pelletier.
Oui, deux élus en déplacement sur le terrain, à la rencontre des populations et des entreprises touristiques dont l'activité est actuellement durement impactée et qui ont dû repartir après avoir été agressés par des jeunes cagoulés qui exigeaient d'elles qu'elles ne mettent plus les pieds à l'île des Pins. Le message, explique le deuxième vice-président de la province sud, Gilles Brial, c'est que la collectivité n'est plus la bienvenue sur l'île des Pins. Elle porte pourtant de nombreux services pour la population cougnée, précise encore Gilles Brial, qui souhaite qu'un point soit fait à la fois avec le personnel de la province sud et les autorités coutumières.
À l'île des Pins, la province, c'est la santé à travers le CNS. C'est la protection des personnes avec les pompiers, c'est les liaisons aériennes avec les contrôleurs aériens, et les liaisons maritimes puisqu'on finance le Petit Joe, et c'est les aides aux personnes et aux entreprises avec nos médiateurs. Donc c'est une vingtaine de personnes qui sont au service de la population. Donc nous, notre objectif numéro un, c'est de faire le point avec notre personnel provincial qui au quotidien porte la politique au service de la population à l'île des Pins. Et puis deuxièmement, c'est adresser également un message aux Cougnais et leur dire qu'on ne peut pas accepter que la collectivité soit prise à partie. Il faut qu'ils fassent la différence entre la politique et une institution qui est au service de la population.
L'ensemble des services provinciaux sera donc fermé sur l'île des Pins du jeudi 5 septembre au lundi 9 septembre inclus. Et si la mission de la province sud est bien d'œuvrer en faveur de la population, ce service devient de plus en plus compliqué avec le départ de personnels médicaux victimes d'actes racistes.
Aujourd'hui, au CMS, pour qu'il fonctionne normalement, il nous faut 4 infirmiers et 3 médecins. Et on a malheureusement 2 médecins et 2 infirmiers qui ont quitté l'île des Pins parce qu'ils étaient victimes d'insultes racistes de menaces racistes, eux et leurs familles, chose qui est inadmissible. Et cette pression d'une partie de la population fait que la province sud, elle ne peut plus porter sa politique de service aux personnes de manière normale et en toute sécurité.
La province sud qui avait déjà réaffirmé dans un communiqué sa détermination à ne pas se laisser intimider par des actes antidémocratiques et qui appelle donc les autorités coutumières à réagir afin que ces violences cessent immédiatement.
C'est Willy Gatuo, l'ancien maire de Païta, qui était notre invité du matin à 7h30. Premier Calédonien d'origine wallisienne à être élu maire d'une commune de Nouvelle-Calédonie. Il a été interrogé sur l'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès, première Calédonienne d'origine wallisienne à présider cette institution.
J'ose croire que, parce que ma légitimité, je la tirais aussi de quelques compétences. Et c'est ce que je veux croire aussi en l'élection de Mme Velma Falaeo. Et j'ai envie d'y voir un retour de Velma Falaeo dans la maison loyaliste, puisqu'elle est héritière d'une grande lignée de loyalistes, la famille Falaeo. Donc j'en suis très satisfait. Et ce sont les non-indépendantistes qui ont responsabilité. Ont permis cela. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le courage de cette candidate qui, pour moi, a été la plus grande ce jour-là, qui est Naya Wateu. Dans une démocratie, il aurait été tout à fait normal et plus logique que Naya Wateu soit élue présidente, puisque sur son nom, elle avait regroupé 19 voix. C'est pas rien contre 6, M. Dunoyer et 3, Mme Falaeo. C'est pour ça que je disais que c'est le plus fort qu'a tendu la main, c'est-à-dire les non-indépendantistes. Et effectivement, la priorité pour les non-indépendantistes c'était déloger. J'ai dit bien déloger M. Wamitan qui à aucun moment, depuis le 13 mai, n'a condamné fermement les exactions qui sont commises et dont souffre la majorité des Calédoniens.
Willy Gatuo s'agace par ailleurs des propos du sénateur de Wallis et Futuna qui a réagi à cette élection en déclarant que les tensions interethniques risquent d'être attisées avec la présidence de Velma Falaeo. Dans un tout autre domaine, l'ancien maire de Païta a évoqué la mise en place des CRC, les collectifs de résistance calédonienne, qui regroupent les comités de voisins vigilants depuis Bouraï jusqu'à ceux des quartiers sud de Nouméa, et il nous a expliqué leur rôle.
L'intérêt de cette organisation, de fédérer ces dispositifs, était effectivement le premier message, en tout cas pour ce qui me concerne, message envoyé aux citoyens, c'est que, et j'ai envie de dire non-indépendantistes, qui ne sont pas seuls. Parce que dès les premières semaines, on s'était, je le redis, on s'était barricadés, chacun dans son coin, et beaucoup se sentaient bien seuls. Donc l'idée de ce regroupement, c'était l'échange d'informations, bien évidemment, c'est de la solidarité, c'est des moments où l'on se retrouve, notamment de manière hebdomadaire, pour échanger nos informations, nos expériences. Et puis ça rassure. Les indépendantistes ont créé la CCAT, pourquoi pas CRC.
Willy Gatuo, l'ancien maire de Païta, qui était donc notre invité ce matin à 7h30. Vous pouvez entendre et revoir cette interview sur notre site internet rrb.nc. Dans l'actualité politique, Nicolas Metzdorf adresse une lettre aux deux parlementaires indépendantistes, le député Emmanuel Tchibaou et le sénateur Robert Rowy. Il revient sur leur participation au congrès extraordinaire du FLNKS à Koumac en l'absence de l'UPM et du Palika et leur demande s'ils reconnaissent Christian Théen comme président du FLNKS. Une motion qui, dit-il, ruine tous nos espoirs de dialogue. Le député de la première circonscription rappelle que le président de la République devrait réunir les partenaires calédoniens dans quelques semaines pour discuter de la reconstruction et de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. S'il reconnaissait Christian Théen comme président du Front indépendantiste, Nicolas Metzdorf indique, je cite, qu'il lui semblerait incongru de poursuivre, de continuer à parler de reconstruction. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 84% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le Palika et l'UPM doivent quitter le FLNKS. Ils sont 16% à penser à l'inverse qu'ils doivent essayer d'en prendre le contrôle. Notre question du jour, selon vous, quel est l'objectif premier de la taxe sur le sucre qui vient d'entrer en vigueur? Si vous pensez qu'elle a d'abord pour objectif la santé publique, vous tapez 1. Si vous pensez que son premier objectif est d'augmenter les recettes fiscales, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h40, une première pause avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Protégez ceux qui comptent le plus. Incendie NC, votre partenaire en sécurité sur l'ensemble du territoire. Formation, vente, maintenance, vous former peut sauver. Contactez-nous au 77 68 96 ou retrouvez-nous sur Normandie. Votre sécurité, notre priorité.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité sur le territoire et l'Assemblée de la province des Îles est réunie depuis ce matin à Lifou. À l'ordre du jour des élus, notamment le budget supplémentaire de la collectivité pour 2024 et l'instauration d'une aide d'urgence aux entreprises impactées économiquement par la crise du 13 mai. Au chapitre social, le soin de santé est mobilisé depuis 6 heures ce matin et jusqu'à midi devant l'EHPAD de Tina. Une quinzaine de personnes est rassemblée devant l'établissement, mais les accès n'en sont pas bloqués. Le syndicat dénonce une pression de la part de la direction, une absence de dialogue et des licenciements effectués sans le respect des procédures. Et puis c'est une première depuis le 13 mai, le Centre du Service National en Nouvelle-Calédonie a repris ce matin ses journées défense et citoyenneté. Cette JDC est obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Elle permet de les sensibiliser aux questions liées à la défense nationale, au fonctionnement des institutions et aux différentes formes d'engagement. Les casernes militaires étant inaccessibles depuis 3 mois pour des questions de sécurité, la province sud a mis à disposition son auditorium. Une reprise adaptée après la longue interruption liée aux émeutes, souligne Marie-Christine Roque, chef de section JDC au centre du service national de Nouméa.
Il fallait que les gens se déplacent et tout était bloqué. Donc on a dû annuler toutes les JDC en cours, rappeler les parents, rappeler les jeunes, dès qu'on avait un numéro de téléphone ou un mail, pour leur demander de ne pas se déplacer, parce que plus personne n'était en sécurité, et qu'on ne voulait surtout pas qu'ils aient des problèmes à se déplacer également. Donc aujourd'hui, c'est la première. Comme les jeunes ne peuvent pas accéder à l'intérieur de la caserne, donc du coup, le CAPS a bien voulu nous prêter gentiment l'auditorium.
Alors comment ça se passe cette journée défense et citoyenneté? C'est une nouvelle formule, hein?
Oui, c'est ça. Donc le format de 8 heures, il est passé à 2h45. Donc dans la journée, on a deux sessions. Une journée le matin de 8h à 11h15, on convoque 35 jeunes. Et après, à midi et quart, c'est un deuxième groupe qui vient jusqu'à 15h30.
La journée défense et citoyenneté adaptée donc, mais qui dispense toujours un enseignement sur le civisme. Les jeunes doivent également passer un test de français.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h43.
Le marché de l'occasion est en train d'exploser en Nouvelle-Calédonie. Les conséquences économiques générées par les émeutes poussent de nombreux Calédoniens à se tourner vers la seconde main pour faire leurs achats. En témoigne la fréquentation très importante du site annonce.nc, explique David Pedro, le gérant de la société Wamland.
On a effectivement beaucoup de choses qui se vendent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi. Hein. Il n'y a pas que des gens qui vendent, loin de là. On a une augmentation, on va dire, de l'ordre de 20% un peu du trafic par rapport à d'habitude, autant en vente qu'en recherche. Alors aujourd'hui, sur les sites généralistes, on a effectivement deux parties. On a les gens qui vont rechercher des bonnes affaires, bien entendu. Hein. Mais plus généralement, ça va être un peu dans la construction, ça va être les véhicules sont pas mal boostés aussi. Et puis tout le côté un peu solidaire, où là, on va avoir des gens qui donnent des affaires, des gens qui cherchent des affaires. Je parle de vêtements, hein, notamment. Après, l'ensemble des sites, de toute façon, est boosté par cette crise, hein, fatalement. Hein. Il y a des objets qui étaient à vendre avant la crise et qui ne sont plus autorisés après la crise, c'est notamment les armes. Les armes, historiquement, il y a toujours eu des armes à vendre sur annonce.nc, dans la rubrique armes et airsoft. Aujourd'hui, seuls les airsoft sont autorisés, les armes ont été interdites à la demande du notariat.
Autre exemple de ce marché de l'occasion qui est en train d'exploser à la ressourcerie, qui est spécialisée, vous le savez, dans la revente de vêtements ou d'objets à tout petit prix. Magré Romone est assistante de transport à l'association de la ressourcerie.
On va se représenter.
Bonjour, alors moi je m'appelle Magrette Romone et je travaille ici à la ressourcerie en tant qu'assistante transport et aux associations.
Est-ce que vous me racontez un peu comment ça marche ces dernières semaines? Tout se passe bien?
Alors tout marche très bien ici au niveau de la boutique et on a plein de clients qui viennent de tout partout, on va dire, genre du Mont d'Or, de Païta, de tout parti, viennent pour déposer leurs vêtements en dents. Et après, tout en déposant, ils regardent un peu ce qu'il y a dans la boutique et ils achètent.
Du côté des brocanteurs, les particuliers sont très nombreux à vouloir vendre des meubles ou des objets de décoration. Beaucoup de magasins spécialisés dans la brocante sont saturés, explique Alfred Ingros, gérant de la boutique Brocantissime.
Comme il y a une dizaine d'années que je suis là, j'avais déjà une certaine clientèle. Et parmi, il y a beaucoup qui ont pris la décision de quitter le territoire. Donc, ce sont des gens qui viennent et puis bon, ils veulent pas trop perdre leur temps à faire des vide-greniers, des choses comme ça. Ils proposent de vendre tout l'intérieur de la maison. Donc, ça m'est déjà arrivé. C'est une pratique assez courante. Mais j'explique que moi, j'ai déjà pas le volume de stockage. Et en plus, il n'y a aucun intérêt pour moi vu qu'on a aucune, on peut pas se projeter ni rien, ni dans 6 mois, ni dans peu importe. Donc, bien souvent, ben, je suis obligé de leur dire que je suis désolé, je peux rien pour eux, quoi. Donc, je sais pas comment ils font. Ben, je pense qu'ils donnent ou peu importe. Mais enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde.
Voilà des propos recueillis par Sarah Mejri. Encore une information en bref pour vous signaler qu'Air New Zealand prolonge la suspension de ses vols jusqu'au 29 mars 2025. Le 10 juin dernier, la compagnie avait suspendu une première fois ses liaisons avec la Nouvelle-Calédonie jusqu'au 28 septembre 2024, avant de les prolonger une première fois jusqu'en novembre, puis en décembre. Mais il faudra désormais attendre la fin du premier trimestre 2025 pour voler à nouveau sur Air New Zealand. Les dossiers de réservation sont actuellement en cours de traitement. Les passagers sont avisés par mail et SMS par leurs agences de voyage. Il est 11h47, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et un nouveau nom évoqué pour le poste de Premier ministre. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Thierry Baudet à Matignon, c'est le nouveau nom qui circule alors qu'Emmanuel Macron a consulté la nuit dernière pour nous plusieurs personnalités politiques, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, eux aussi avancés comme possibles locataires de Matignon, mais également les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et enfin Gabriel Attal et François Bayrou. Aucune décision n'est encore annoncée. Mais le nom de Thierry Baudet revient avec insistance. À 62 ans, cet homme est inconnu du grand public. Il préside actuellement le CESE national. C'est un ancien instituteur qui a fait sa carrière dans le secteur mutualiste et qui s'est exprimé sur différents sujets ces derniers mois. En mars dernier, par exemple, il avait partagé sa fierté et son émotion sur les réseaux sociaux au moment de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il a aussi défendu à plusieurs reprises les droits LGBT. Reste à savoir si jamais il était nommé Premier ministre, s'il a une chance de convaincre une majorité de députés. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Au nouveau Front Populaire, le député insoumis Antoine Léaumont est catégorique.
Si c'est quelqu'un d'autre que Lucie Castet, il est évident non seulement qu'on déposera une motion de censure, mais ce serait trop facile une motion de censure, parce que le responsable de la situation et du chaos, il n'est pas à Matignon, il est à l'Élysée. Donc on déposera aussi une motion de destitution du président de la République.
Reste à savoir si l'ensemble des députés de gauche suivront cette consigne. À droite, les Républicains pourraient accepter cette nomination en échange de certaines concessions. Au Rassemblement national, le député Yoann Gillet ne se prononce pas encore.
Nous ne pouvons pas annoncer par principe le vote d'une motion de censure comme ça. Il faut écouter ce qu'aura à dire le futur Premier ministre. Donc quand j'entends moi la gauche et l'extrême gauche dire qu'ils vont déposer des motions de censure à tout bout de champ, ça n'a aucun sens, ils mentent aux Français en réalité puisque se sont alliés à Emmanuel Macron.
Notre seule ligne rouge, c'est la présence d'un ministre du nouveau Front Populaire, assure Marine Le Pen.
Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présidé un hommage rendu à Éric Comines. Cet adjudant de la gendarmerie a été tué par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est un crime, a déclaré Gérald Darmanin dans son discours en rendant hommage aux gendarmes disparus.
La France entière a été saisie par le choc. Et de ce choc est née en nous une immense colère. Une colère qui s'est exprimée. Une colère que l'on critique quand on est assis confortablement protégé. Mais qui sont-ils pour juger? Mais si la mort fait partie de la vie du gendarme, du policier, les conditions de celle-ci ne sont pas toutes acceptables. La mort d'Éric Comines n'est pas acceptable. Elle nous révolte. Nous inclinons devant votre chagrin, chers enfants. Votre dégoût, votre tristesse est immense. Mais à vie, vos propres enfants et après eux, vos petits-enfants auront le plus grand honneur qui est donné à une fille ou à un fils de France. De pouvoir dire « Mon père était un héros ».
Et Gérald Darmanin a décerné la Légion d'honneur à titre posthume à Éric Comines, qui a également été promu adjudant-chef. Les semaines d'audience à venir devant la cour criminelle du Vaucluse s'annoncent lourdes. 51 personnes comparaissent, dont Dominique Pellicot, qui pendant des années a drogué sa femme Gisèle avant de la livrer à des inconnus recrutés sur Internet qui ont abusé de cette mère de famille de 3 enfants. Ce sont eux qui sont assis sur le banc des accusés avec le mari de la victime. Un procès dont les débats seront finalement publics, Nina Pavant.
Dans ce genre de procès, c'est la victime qui décide. Gisèle Pellicot veut que tout le monde sache ce qu'elle a subi, comme le détaille maître Stéphane Babonneau.
Elle estime également qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de viols et de faits graves le ressentent, et que la honte change de camp.
La honte, son ex-mari va-t-il en exprimer ? À la barre. Aujourd'hui, en tout cas, c'était la première fois que Gisèle et Dominique se revoyaient depuis la révélation des faits en 2020. Un face-à-face assez tendu entre la victime et son bourreau d'ex-mari.
Évidemment, le fait de revoir son ex-époux était un moment, mais je pense pour toute la famille, un moment d'appréhension. Mais aujourd'hui, elle souhaite s'exprimer et elle prendra le temps de le faire lorsque son tour viendra, et ça va venir assez rapidement dès cette semaine.
Gisèle Pellicot prendra la parole jeudi. Elle devra raconter son calvaire devant les 51 hommes qui ont abusé d'elle.
Et puis dans l'actualité économique et sociale en métropole, l'entreprise Duralex entame une nouvelle vie. Placé en redressement judiciaire, le tribunal de commerce d'Orléans a finalement donné son feu vert pour que la célèbre verrerie du Loiret soit désormais dirigée par ses 228 salariés. Les explications de Margot Faudéré pour Europe 1.
Devant un parterre d'élus locaux, de journalistes et surtout de Duralexiens, comme ils aiment se surnommer, les salariés ont présenté non sans émotion leur plan pour redresser et relancer la marque Duralex. Au menu, des recrutements, des économies d'énergie, une optimisation des coûts, mais surtout des innovations. Rendez-vous compte, aucune nouveauté n'est sortie de l'usine depuis 1997. Alors l'entreprise veut se moderniser avec un objectif de 3 nouveautés par an, comme l'a détaillé Vincent Valin, le nouveau directeur de la stratégie.
On va lancer des verres Picardie qui vont être déclinés pour le café en noir masse. On va lancer des Picardie avec un format verre à bière. On va lancer une boîte de conservation avec un couvercle clipsable.
Alors mêler tradition et innovation, c'est ce qui doit permettre à terme de booster les ventes de Duralex, une stratégie que soutient totalement Bérangère Pertuis, une salariée de l'entreprise.
L'idée, c'est vraiment de développer, de déployer les moyens pour moderniser nos produits et sortir des couleurs, etc.
Et avec cette nouvelle feuille de route, Duralex espère faire progresser son chiffre d'affaires de 30% d'ici à 2029.
Il est 11h53, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive et notamment les Jeux paralympiques où la délégation française a décroché la nuit dernière 8 nouvelles médailles, dont 5 en or.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Vous souhaitez un logement à la location ou en accession à la propriété sur le secteur situé entre Boulou-Paris et Tontouta? Le FSH vous donne rendez-vous dans le patio de la mairie de Boulou-Paris les mercredis 28 août et 4 septembre de 9h à 13h pour recenser toutes les demandes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez le 05 10 15 et demandez le pôle accession et financement. Le FSH, c'est bien plus qu'un toit.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et on salue bien sûr notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et avec Jean-François Baudin, direction Paris.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
8 nouvelles médailles la nuit dernière, 5 en or, 1 en argent et 2 en bronze. La délégation tricolore a brillé la nuit dernière et se retrouve d'ailleurs 5e au classement des médailles avec 34 médailles, dont 11 en or. Elle a déjà égalé le record de Tokyo en 2021. En badminton, Charles Noax s'offre sa première couronne paralympique dans la catégorie petite taille SH6. Il a battu le Britannique Kirsten Combs en 2-7. Toujours en badminton, dans un remake de la finale des Jeux de Tokyo qu'il avait sacré pour la première fois champion olympique, le badiste Lucas Mazur, qui souffre d'un handicap à la jambe, a une nouvelle fois maîtrisé l'Indien Yetcheraj en catégorie SL4. Lucas Mazur qui a aussi pris du bronze en double avec Faustine Noël. Et puis deuxième titre olympique également pour Alexis Anquincan, le porte-drapeau de la délégation tricolore de ces Jeux paralympiques, a écrasé sa catégorie en paratriathlon. Cet ancien boxeur de haut niveau a subi une amputation d'une jambe à la suite d'un accident et il veut montrer l'exemple.
Tout ce que je fais, je le fais avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et je suis vraiment quelqu'un qui part toujours vers l'avant. Et bien sûr que ce que je fais, j'en suis très fier, très content. Et quelque part, mon parcours, il est sympa, mais c'est aussi prouvé que tout est possible. Jamais sur mon lit d'hôpital, on m'a dit que je serais champion, double champion paralympique et moi, j'y ai cru.
Et dans la même discipline, le quadruple champion du monde en titre, Jules Riepstein, a assumé son statut de favori en décrochant son premier or paralympique en catégorie PTS2. En PTV1, il y a eu deux Français sur le podium. Thibaut Rigaudeau a pris l'argent et Antoine Perel le bronze. Aurélie Aubert a remporté, elle, sa première médaille paralympique de l'histoire de la boccia française. Elle est en or à 27 ans. Elle a battu la numéro 2 mondiale, la singapourienne Tan Yiting, en finale. Ce qui fait donc que la France est cinquième au classement des médailles avec 34 médailles au compteur, dont 11 en or. Et cette moisson devrait, on l'espère, se poursuivre dès demain.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On termine avec du tennis et on connaît une partie des affiches des quarts de finale de l'US Open. Le Britannique Jack Draper a facilement battu le Tchèque Thomas Macha en 3-7. En quart de finale, il retrouvera donc le vainqueur de la confrontation 100% australienne qui a lieu en ce moment entre Alex de Minaur et Jordan Thompson. Daniil Medvedev, de son côté, s'est facilement défait du Portugais Nino Borges. Il affrontera en quart de finale le vainqueur de la confrontation entre l'Italien Jannik Sinner et l'Américain Tommy Paul. Enfin, côté féminin, on signalera les qualifications en quart de finale de la Tchèque Karolina Muchová et de Jessica Pegula.